Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1981, Jean Montalbetti consacrait 3 épisodes de la série Un homme, une ville à Gustave Flaubert et conviait pour en parler l'un de ses lecteurs les plus passionnés, Alain Robbe-Grillet. Après avoir pris pour décor le Paris de l'éducation sentimentale dans la première émission, s'être rendu en Normandie sur les traces de Madame Bovary dans la deuxième, il se plongeait pour le troisième et dernier volet dans l'Orient qui, de Salammbô à la tentation de Saint-Antoine, constitue le décor de plusieurs récits. Or, pour le chef de file du nouveau roman, l'Orient de Flaubert est pur fantasme. C'est une image du désir, et partant de là, une métaphore du rapport de l'écrivain au monde pour qui seul l'imaginaire existe. Gustave Flaubert, Fantasmes orientaux, exotisme et érotisme, une émission diffusée pour la première fois le 15 mai 1981.
من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب
الله صلى الله عليه وسلم.
Un homme, une ville, Gustave Flaubert en Orient avec Alain Robbe-Grillet par Jean Montalbetti.
L'Orient, l'Orient, avec son soleil brûlant, son ciel bleu, ses minarets dorés, ses pagodes de pierre. L'Orient, avec sa poésie toute d'amour et d'encens. L'Orient, avec ses parfums, ses émeraudes, ses fleurs, ses jardins aux pommes d'or. L'Orient, avec ses fées, ses caravanes dans les sables. L'Orient, avec ses sérails, ses jours des fraîches voluptés. Il rêvait l'insensé des ailes blanches des anges qui chantaient les versets du Coran aux oreilles du prophète. Il rêvait des lèvres de femmes pures et rosées. Il rêvait de grands yeux noirs qui n'auraient d'amour que pour lui. Il rêvait cette peau brune et olivâtre des femmes de l'Asie, doux satin qu'effleure si souvent dans ses nuits le poète qui les rêve.
Fantasmes orientaux, exotisme et érotisme. Lecture, Catherine Sellers et François Martouret. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais des petits camarades de classe. Qu'est-ce que je pouvais avoir? 11, 12 ans. Dans les premières années de lycée, ou les premières années de lycée probablement. Des petits camarades qui lisaient Salammbô comme livre érotique. Et bon, alors il y avait évidemment quelques passages privilégiés, les scènes où l'on baise, comme disait Flaubert lui-même à propos des autres. Mais j'ai l'impression que tout le texte devait jouer ce rôle-là pour ces enfants. Il y a quelque chose de très sensuellement sensible dans ce texte.
L'Orient de Flaubert est d'abord un Orient imaginaire. À preuve, la présence de ce fantasme oriental dans les premiers contes, donc écrits par l'adolescent. Il y a aussi l'Orient visité de 1849 à 1851, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, le Liban, donc plutôt ce que nous appelons le Proche-Orient. Et puis le voyage d'avril-juin 1858, lorsque, pour écrire son roman Salammbô, Flaubert se rend en repérage en Algérie et en Tunisie. Mais du Carthage de Salammbô au désert de la tentation de Saint-Antoine, en passant par les forteresses des bords de la mer Morte de son comte Hérodias, l'Orient de Flaubert n'est pas celui de la réalité, mais appartient à une création imaginaire. C'est pourquoi nous n'avons pas cherché à retrouver, par exemple, les jardins d'Amilcar à Carthage. Avec Alain Robbe-Grillet, il nous a semblé plus curieux et plus intéressant de voir comment cet Orient surgissait comme une vision symbolique dans les romans de Flaubert et quelle pouvait en être la dimension érotique. C'est justement cet érotisme de la fiction et même de l'écriture flaubertienne que Robbe-Grillet met en lumière dans cette exploration des fantasmes orientaux. Un parti pris de lecture où Robbe-Grillet trouve un autre signe de la modernité de Flaubert. Cette réflexion va s'engager à partir des documents iconographiques réunis à la Bibliothèque nationale, dont les photographies prises par son compagnon Maxime Ducamp, que nous présente le conservateur en chef du département des manuscrits, M. Roger Pierrot.
Le voyage en Orient a été une très grande affaire. Primitivement, ils voulaient se rendre en Perse. Et ils avaient demandé une mission au ministère de l'Industrie et du Commerce pour étudier le commerce. Enfin, c'était un bon prétexte à avoir un passeport diplomatique et à être un peu bien reçu par les consuls de France. Finalement, ils ne sont pas allés en Perse, mais ils se sont embarqués à la fin de 1849 à Marseille. Ils ont débarqué à Alexandrie et il va y avoir un très très long séjour en Égypte, remontant le Nil très haut en Haute-Égypte, Flaubert prenant des notes dans des carnets qu'il exploitera plus tard, et Ducamp faisant des photos. Là, il y a quelque chose d'assez amusant. C'est la représentation de l'hôtel du Nil au Caire, où ils étaient descendus. Et on a eu, il y a quelques années, la curiosité de regarder un petit peu de près le personnage en galabier avec une calotte et une barbe qui est au bas du jardin de cet hôtel, et de faire un agrandissement. Et il semble bien que ce personnage soit Flaubert. Ça correspond tout à fait aux descriptions du costume qu'il portait, figurant dans quelques-unes de ses lettres. Mm-hmm.
Je déteste les photographies. Jamais je ne trouve cela vrai. Je ne consentirai jamais que l'on fît mon portrait en photographie. Max l'avait fait, mais j'étais en costume nubien, en pied, et vu de très loin dans un jardin. Lettre à Louise Collet, 14 août 1853.
Alors, après l'Égypte...
Oui, pour Flaubert, comment inscrire justement dans ses recherches ce voyage en Orient? Ce n'est pas le premier voyage, c'est le troisième qu'il fait. Il a commencé dès 1840 à voyager dans les Pyrénées en Corse. Et ensuite, il y a celui de 1845 en Italie.
Oui, c'était la sœur et le beau-frère étaient en voyage de noces, et le voyage de noces s'est fait en famille, avec le beau-frère et les parents, ce qui est un peu original.
Alors l'Italie, le voyage en Italie, c'est un voyage traditionnel, celui de l'Orient.
Le voyage en Orient, ça commence à devenir quand même, il y a eu Lamartine, il y a eu Nerval, enfin...
Mais le voyage qui est l'objet des plaisanteries de Flaubert dans l'éducation, c'est le voyage en Italie quand même, qu'il considère vraiment comme le stéréotype le plus pignouf qu'on puisse imaginer.
Oui, mais alors... Tout de même, après le voyage de 1845 et après le voyage en Orient, on revient d'Orient en passant par la Palestine, en passant par la Turquie, en passant par la Grèce. On peut admettre que tout ça, c'est l'Orient. Mais au lieu de s'en rembarquer au Pirée pour rentrer, on traverse la Grèce et on reparcourt l'Italie et on visite Rome et on visite Florence. Mmh.
Les premiers jours, je m'étais mis à écrire, mais j'en ai, Dieu merci, bien vite reconnu l'ineptie. Il vaut mieux être œil tout bonnement. Lettre à Louis Bouillet, 1850.
C'est d'ailleurs assez drôle de voir dans ses relations de voyage, comme dans les voyages aussi, il était fasciné par les stéréotypes. C'est-à-dire que, à chaque instant, il note que ce qu'il a vu... C'est en somme une carte postale, ce qu'on appelle aujourd'hui une carte postale, une diapositive, quoi. C'est-à-dire une très forte densité mythique sur un paysage qui représente vraiment non pas une découverte de quelque chose de nouveau, mais au contraire l'ancrage dans une idéologie, quoi, si vous
alors
voulez.
Justement, ce sont exactement les panneaux que vous avez derrière vous et où vous avez réuni un certain nombre d'images de l'Orient que probablement Flaubert avait dans la tête lorsqu'il est allé là-bas.
Oui, ou deux images qui sont vraiment strictement contemporaines en dehors des photos de Ducamp.
Alors, quelles sont ces images et ces stéréotypes de l'Orient?
Un des stéréotypes, alors, c'est l'érotisme. Dans l'imagination bourgeoise occidentale, l'Orient est lié à
l'érotisme. Et un érotisme très particulier, c'est le fantasme masculin du harem, de la femme esclave, de la rondeur des formes, de la femme bonbon fondant, etc., etc. Bon, ça, alors bon, c'est dans tout le 19e siècle et encore de nos jours, c'était Orient qui a joué. Et vous avez l'image, là, vraiment, de ce...
Oui, c'est une peinture du colonel Langlois qui date de 1850, où on voit deux femmes en train de danser ensemble, dont l'une est à peu près nue, je pense.
Oui.
Et il y a une assistance de femmes, il y a un seul homme qui se trouve au centre du tableau.
Qui est le maître du harem, c'est un fantasme masculin classique, n'est-ce pas? Et ces fantasmes érotiques de l'Occident ont eu, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, ce nom, Orient. L'Orient, c'est un pôle de l'œuvre de Flaubert. Ça apparaît dans tous les premiers contes de son enfance et ça apparaît jusqu'à la fin. Bon, c'est un stéréotype, évidemment. C'est un stéréotype sexuel, évidemment. C'est une image du désir.
Expliquez-nous tout de même un petit peu ce stéréotype sexuel, cette image du désir. Comment est-ce qu'il fonctionne et à partir de quand et qu'est-ce que ça signifie sur le plan sexuel?
D'abord, l'Orient, c'est la chaleur. Ça, c'est quelque chose sur quoi Flaubert insiste beaucoup dans toute sa correspondance et depuis les premiers contes jusqu'à la fin. C'est l'endroit où il fait chaud. Et cette chaleur à quelque chose de voluptueux, de sensuel, etc. Bon, on imagine très bien, n'est-ce pas? Il vit ici, là où nous sommes aujourd'hui, il vit dans... Aujourd'hui, il y a du soleil, tout à fait exceptionnel. Mais l'Orient, c'est tout ce qui va être chaud. Et ça commence très tôt, ça commence... la Provence, c'est déjà l'Orient. L'Espagne, il le dit, je crois qu'il le dit textuellement de l'Espagne, que c'est déjà l'Orient. Sous prétexte que l'Espagne a été arabisée, n'est-ce pas? Il est content, il y trouve l'Orient. Alors, l'Orient, c'est tout ce qui va apparaître comme le voyage dans un pays chaud. Il y a un mythe du voyage qui existe dans notre société et qui est constant et qui est à peu près celui qu'on trouve chez Flaubert. Le voyage vers les pays froids, les croisières au Cap Nord, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, sophistiqué et mondain. Le stéréotype populaire, c'est la Méditerranée, avec tout ce que ça comporte de chaleur, de soleil, de palmiers et de femmes chaudes. Car dans ce stéréotype du voyage, ce stéréotype populaire, il y a aussi l'amour. On voyage pour trouver des femmes plus femmes que celles qui sont ici. Et alors là, c'est vraiment, de nouveau, le désir inassouvissable. Les femmes d'ici ne sont pas des vraies femmes. Les vraies femmes qui assument leur féminité, alors dont on pourra parler plus tard si vous voulez, la féminité à double face, qui est à la fois la femme esclave et l'impératrice qui condamne à mort.
C'est Salammbô.
Cette image-là, c'est l'image de la femme inaccessible dont il y aura quelques copies un peu médiocres. Madame Bovary, vue par Léon, Madame Arnoux, vue par Frédéric Moreau. C'est déjà leur Orient. On peut dire que pour Léon, Madame Bovary, c'est déjà son Orient.
Madame Bovary imagine dans ses rêves et dans ses visions un voyage en Orient avec Léon, et oui, de même Frédéric Moreau imaginera un voyage en Orient avec Madame Arnoux.
Mais il y a quelque chose de plus significatif encore, c'est la description de Madame Bovary laissant tomber ses voiles devant le rideau pourpre du lit de la chambre que Léon a louée pour elle dans le petit hôtel de Rouen, où à ce moment-là, on a l'impression, avec ses cheveux noirs, sa peau blanche et les poses qu'elle prend devant cette tenture, qu'on a déjà affaire à Salomé. Elle est à ce moment-là l'image de la femme femme. Cette espèce de mythe qui hante Flaubert de toute son existence. Bon, alors, l'Orient, donc, c'est la chaleur, et l'Orient, c'est la femme.
Au bout de cette galerie, de cette exposition Gustave Flaubert à la Bibliothèque nationale, il y a un panneau sous forme d'angle droit où il y a deux tableaux de Gustave Moreau, qui datent d'ailleurs de la même année, c'est-à-dire de 1876, qui sont deux représentations de peintures de Salomé dansant. L'une est vêtue d'une robe à longue traîne et l'autre, au contraire, est une Salomé nue qui joue avec simplement une draperie autour d'un bras.
Mais elles ont exactement la même pose, vous pouvez remarquer.
Elles ont la même pose,
c'est une pose très
bizarre.
Elles
sont deux profils. Alors là, on pourrait peut-être parler, car vous l'avez fait jusqu'à présent avec beaucoup de pudeur à propos des voyages en Orient, de l'érotisme de Flaubert, et notamment dans ce conte d'Hérodias, qui est réuni dans les trois contes de Flaubert, où Salomé danse devant son... à la fois son oncle et son beau-père, à l'instigation de sa mère Hérodias, pour essayer d'obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste.
Oui, alors les rapports de Flaubert à la femme sont probablement, pour moi, intéressants, comme une fois de plus, une sorte de métaphore des rapports au monde de l'écrivain et de la création littéraire. Le stéréotype de la femme chez Flaubert est très, très marqué, très repérable, étiquetable. La femme attire et en même temps est un danger mortel. Bon, ça c'est un stéréotype, c'est pas Flaubert qui l'a inventé, il est bien antérieur, il est bien postérieur aussi, bon. Mais ce stéréotype prend là une figure très particulière. Ce danger mortel, ça va être de nouveau l'image de la mort de l'écrivain. C'est-à-dire que la disparition de la conscience créatrice dans l'objet même que cette conscience créatrice va mettre au jour.
Dans le tableau de Gustave Moreau que nous sommes en train de regarder, celui où Salomé est nue, a une sorte de diadème sur la tête, fait un geste impérieux du bras gauche peut-être pour demander la tête de Saint Jean-Baptiste. Elle passe devant son oncle, son beau-père, le tétrarque de Galilée, Hérode Antipas, que l'on aperçoit simplement en ombre, en fond, assis sur un trône. Est-ce que c'est une représentation de Dieu ou est-ce que c'est une sorte de figuration de la mort dans le tableau de Gustave Moreau, dans la mesure où ce n'est pas Salomé qui veut la mort de Saint Jean-Baptiste, elle n'est que l'instrument de la volonté de sa mère. Et c'est parce que sa mère connaît le pouvoir de son corps et de sa jeunesse, donc son pouvoir de séduction sur Hérode Antipas, qu'elle lui demande de faire cette danse érotique pour obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste.
Je crois qu'il faudrait insister, pour répondre à ce que vous dites, sur l'évolution des Salomé
à travers les nombreux tableaux qui ont été faits à l'époque par Moreau et des nombreuses esquisses pour ces tableaux.
Bon, vous en avez vu un autre à
Los Angeles ? Non, j'en ai vu plusieurs. Il y en a un chez Maurice Reims. Il y a l'énorme de Los Angeles qui est vraiment celui qui est considéré comme le plus accompli. Il y a ces deux-là qui sont au musée Gustave Moreau. J'ai dû en voir peut-être 6 ou 7 en tout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la recherche de Gustave Moreau va vers la constitution en objet de la chair. Alors, vous voyez, sur celle-là, vous avez fait remarquer, celle-là est habillée et celle-là est nue. Bon, l'habillement, là, ne la constitue pas comme suffisamment prestigieuse. La nudité va lui donner un caractère vulnérable qui ne va montrer que trop une des faces du stéréotype, l'objet de consommation sexuelle. Et la solution finale qui a été adoptée par Moreau, qui n'est donc aucun de ces deux-là, est très curieuse. C'est le corps nu, mais comme incrusté de filigranes de métal. Comme si le corps nu de Salomé avait été tatoué, mais par des tatouages d'or et d'argent qui dessinent des arabesques sur son corps et qui transforment ce corps en quelque chose d'invulnérable. Bon, très intéressant parce que, du point de vue de Flaubert, les images de la femme sont dérisoires dans l'éducation. Parce que ce sont les vraies femmes qu'on fréquente sur cette terre pourrie, sous cette monarchie dérisoire, la monarchie de Juillet, ou cette république encore plus dérisoire qui va s'achever dans le Second Empire, qui est la dérision même de la puissance. Alors ça, ce sont les vraies femmes. Et puis alors, il y a les femmes imaginaires, mythiques, qui sont alors celles qui, à travers lesquelles il opère la même recherche que Gustave Moreau sur le corps de Salomé, et qui apparaissent alors dans Hérodias et dans Salammbô. Parce que le personnage de Salammbô n'est pas du tout un personnage médiocre, contrairement à Madame Arnoux ou à Rosanette ou à toutes les femmes qui apparaissent dans l'éducation, ou à Madame Bovary elle-même. Salammbô, au contraire, est cet objet femme transformé en statue de Dieu.
Il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge-pigeon, en couvrant les épaules, tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon, comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingra remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourait dans sa caresse. les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins. Et son visage demeurait immobile, et ses pieds n'arrêtaient pas. Vitellius la compara à Mnester, le pantomime. Aulus vomissait encore. Le tétrarque se perdait dans un rêve et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens. La vision s'éloigna. Ce n'était pas une vision. Elle avait fait instruire, loin de Machaerus, Salomé, sa fille, que le tétrarque aimerait. Et l'idée était bonne, elle en était sûre maintenant. Puis ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les Bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l'étoffe de son dos chatoyait. De ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta, la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux, en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher. Et les nomades habitués à l'abstinence, les soldats de Rome experts en débauche, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de convoitise. Ensuite, elle tourna autour de la table d'Antipas, frénétiquement, comme le ronde des sorcières. Et d'une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, il lui disait « Viens, viens !» Elle tournait toujours. Les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait, et le tétrarque criait plus fort « Viens, viens !» Tu auras Capharnaüm, la plaine de Tibérias, mes citadelles, la moitié de mon royaume. Sur les mains, les talons en l'air, parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée et s'arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleurs qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l'épaule comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc. Elle ne parlait pas. Il se regardait. Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut, et en zézayant un peu, prononça ces mots d'un air enfantin. « Je veux que tu me donnes dans un plat la tête... » Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant. « La tête de Iokanaan. »
Est-ce que l'Orient est aussi l'histoire? C'est le lieu où l'histoire est restée immobile.
Oui.
Pour l'imagination romantique et les goûts romantiques de Flaubert.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et quand il aura fait des vrais voyages, il s'apercevra que l'Orient n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que le vrai Orient va devenir celui de Salammbô, c'est-à-dire celui qui n'a jamais existé. Celui qui n'existe que dans les films de Cécile B. DeMille et les contes romantiques.
Alors, est-ce que Flaubert est le premier à faire sur l'Orient, sur l'Antiquité, du Cécile B. DeMille?
Ben, de toute façon, ce mythe-là, il court depuis longtemps. Il est apparu avec beaucoup de force chez les romantiques, mais il apparaît déjà avant. Le voyage en Orient, c'est quelque chose qui traîne à travers toute notre civilisation. Il y a toujours eu un rêve de l'Orient. Bon, ça tient à deux choses. D'une part, on connaissait pas d'Occident. Dans notre société, tout est à l'Est. Puisqu'on n'avait pas traversé l'Atlantique, tout est à l'Est, et ce qui est à l'Est, c'est le soleil qui se lève, c'est les civilisations passées, c'est aussi, il faut bien dire, pour Flaubert, la cruauté, qui joue un très grand rôle dans ses imaginations orientales. Il ne faut pas oublier que Flaubert avait pour Néron une dévotion extraordinaire. Il l'a exprimé de très nombreuses fois dans ses lettres. Néron, c'était vraiment le grand homme qui aurait, lui, échappé à la médiocrité, étant à la fois un poète et un assassin, et pas un assassin médiocre, mais un assassin de grande taille, qui n'hésitait pas à brûler des villes et des populations entières, etc.
Alors, cette cruauté dont vous parlez, effectivement, dans Salammbô, elle est d'abord constamment liée à l'érotisme, elle est constamment liée aux images de l'Orient. Le barbare est le symbole même de la cruauté, et pas seulement le barbare d'ailleurs, on passe son temps à s'étriper, les éléphants ont des défenses rougies du sang de leurs victimes, et il y a des scènes de flagellation qui sont tout à fait insoutenables, d'êtres qui sont écorchés vifs. Il y a, semble-t-il, cette sorte d'étalage de cruauté d'une manière sadique ou sadienne chez Flaubert qui semble liée, justement, peut-être plus encore qu'à l'érotisme, à cette image de l'Orient.
Oui, enfin, à ce fantasme de Flaubert, tout simplement. C'est-à-dire que pour échapper à la médiocrité, le crime d'envergure et le crime sexuel de préférence va apparaître effectivement comme le rêve le plus merveilleux. Bon, Flaubert était probablement un être doux et tranquille, comme le marquis de Sade lui-même, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a joué dans son existence visiblement un rôle considérable, le fantasme de la cruauté. C'est une époque où on racontait moins ça, et par conséquent, il n'a pas laissé directement des souvenirs de scènes masturbatoires ou de lectures coupables, etc. Mais c'est très probable que ça a joué pour lui un rôle énorme. Et effectivement, comme l'Orient, c'est le désir en général, alors outre la chaleur et la femme voluptueuse, c'est aussi la cruauté.
C'est le lieu où l'imagination est libre, au-delà de toute limite.
Voilà. Exactement. C'est le lieu où l'imaginaire peut se réaliser. Et évidemment, c'est un lieu paradisiaque et inexistant. L'Orient n'existe pas. L'Orient, c'est un fantasme. C'est un fantasme de l'Occident. Et c'est d'ailleurs en tant que fantasme de l'Occident qu'il apparaît constamment chez Flaubert.
Est-ce que cet Orient n'est pas aussi une sorte de refuge historique ou ahistorique et un refuge, une fuite de Flaubert qui a été déçu par l'histoire contemporaine? Car bien sûr, dans l'éducation sentimentale, il nous parle de l'histoire à laquelle il a assisté, dont il a été le témoin, c'est-à-dire la révolution de 48, mais qui soulève très modérément son enthousiasme. il ne croit guère à ses espoirs républicains et il est assez, il tourne un petit peu en dérision un petit peu tous ces événements. Est-ce que par contre, pour son imagination, justement, il ne se tourne pas de préférence vers ce qu'est l'épopée de Carthage ou celle de la Rome antique à Jérusalem dans un conte comme celui d'Hérodias?
Probablement, mais de toute façon, il aurait été déçu par n'importe quoi, y compris par Carthage s'il avait vécu à l'époque d'Amilcar. Cette déception, elle est fondamentale. C'est la vocation de l'écrivain. Et elle est liée en même temps à la fonction de l'art moderne, selon Barthes. Qui doit à son tour décevoir, dit Barthes. Personnellement, je pense que ça forme un tout, si vous voulez, et pour moi, c'est d'une façon simple le rêve sexualisé. C'est-à-dire, tout ce que nous venons de dire là, et on trouverait des passages à chaque instant. Je voulais aussi vous lire celui-ci. Je voyais l'Orient, ses sables immenses, ses palais que foulent les chameaux avec leurs clochettes d'airain. Je voyais les cavales bondir vers l'horizon noyé par le soleil. Je voyais des vagues bleues, un ciel pur, un sable d'argent. Je sentais le parfum de ces océans tièdes du midi. Et puis, près de moi, sous une tente, à l'ombre d'un aloès aux larges feuilles, quelques femmes à la peau brune, au regard ardent, qui m'entouraient de ses deux bras et me parlaient la langue des houris. Ce qui est merveilleux, parce que à ce moment-là, le caractère complètement imagerie de cet Orient est tout à fait avoué, désigné la langue des houris, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une langue qui n'est pas de ce monde. C'est une langue merveilleuse, avec en plus, alors là, les cavales. Vous avez remarqué au passage la chaleur, les parfums, etc., etc.
Ça, c'est un extrait d'un de ses premiers contes.
C'est un extrait des Mémoires d'un fou, oui. L'Orient, d'ailleurs, dans ses premiers contes, va se scinder en deux parties qu'il faudrait peut-être distinguer. Il y a l'Inde et le désert, qui probablement forment deux contrées avec beaucoup de points communs, dont la chaleur et les femmes, mais avec aussi des différences assez fondamentales, en particulier quand Flaubert s'intéresse aux religions, et où la religion islamique va être alors très différente par ses apports des religions extrêmes orientales, et en particulier ce qu'il pouvait savoir du brahmanisme. Il avait été très frappé par le Bhagavad Gita, où il avait trouvé ça, que l'artiste doit renoncer à vivre pour exprimer la vie. Alors, c'est cette idée dont on parlait tout à l'heure, de l'artiste qui est un trou dans le monde et qui doit renoncer à vivre lui-même, il l'avait trouvé alors aussi, il l'avait retrouvé en tout cas, dans certaines philosophies orientales. Ça alors, probablement, ça n'existe pas dans l'Orient islamique. Il semble que plus tard, c'est l'Orient islamique ou pré-islamique qu'il est plutôt séduit, et il a abandonné très vite le Gange pour le désert. Le désert est un endroit très intéressant, parce que c'est un endroit impossible. C'est censément le comble de la nature vierge, mais en même temps, c'est une nature tellement hostile qu'il n'y a plus de nature. C'est-à-dire que par rapport à la forêt tropicale des imaginations hindoues, au contraire, va apparaître un monde complètement aride et minéral, où il n'y a plus que du sable, de la soif, des caravanes désespérées qui cheminent dans le Khamsin.
Est-ce que c'est ça dans l'esprit de Flaubert, c'est-à-dire est-ce que c'est ce stéréotype du désert oriental, ou bien est-ce que le désert est un peu l'image de la chambre dans laquelle il est enfermé face à sa propre création littéraire, et donc le lieu qui favorise le mieux l'exercice de l'imaginaire?
Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que sur ces chameaux qui se balancent, qui vous transportent dans des déserts sans fin, on pense et on est en train de faire son œuvre. Oui, alors la solitude. Et il insiste beaucoup sur la solitude du désert, qui est effectivement la solitude de l'écrivain. Bon, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'Orient va être un stéréotype double extrêmement curieux. Parce que c'est d'une part là où est la vraie vie, et d'autre part, c'est là où on sait qu'il n'y a pas de vraie vie. C'est-à-dire, c'est là où règne l'imaginaire.
mais pas dans la vraie vie. C'est comme si ces pays-là savaient que seul l'imaginaire existe. Et alors là, c'est surtout vrai, évidemment, pour l'extrême-orient, pour les philosophies extrême-orientales. Et ce rapport, alors très complexe et mouvant, il faut bien le dire, entre le désert solitude, les femmes au parfum et au langage de Houri, les philosophies du renoncement, le voyage lointain où l'on se perd, tout ça va former dans l'œuvre de Flaubert une espèce de tissu sans cesse renouvelé, où circulent des quantités de réseaux de sens différents et où il ne va pas du tout nous être possible de dire « l'Orient, c'est ça », etc. C'est un lieu imaginaire où circule du sens.
Le désert est aussi le lieu où l'on manque de tout. Le lieu du dénuement, où l'on manque, bien sûr, de sensualité, de femme, où l'on manque de biens matériels, où l'on manque d'eau, c'est le lieu du manque par excellence.
C'est ça qui est amusant de voir que c'est à la fois donc l'Orient surabondant et l'Orient de la pauvreté absolue. Du dénuement absolu.
Alors, l'Orient surabondant, ce serait plutôt celui de Salammbô, et l'Orient du dénuement absolu, c'est plutôt celui de la tentation de Saint-Antoine.
C'est possible, mais l'image du désert apparaît dans Salammbô très souvent. Le désert cerne Carthage, dans l'imagination de Flaubert.
La reine de Saba, se laissant glisser le long de son épaule, descend sur les tapis et s'avance vers Saint-Antoine. Sa robe en brocart d'or, divisée régulièrement par des falbalas de perles, de jais et de saphirs, lui serre la taille dans un corsage étroit, rehaussé d'applications de couleurs, qui représentent les 12 signes du zodiaque. Elle a des patins très hauts, dont l'un est noir et semé d'étoiles d'argent avec un croissant de lune, et l'autre, qui est blanc, est couvert de gouttelettes d'or avec un soleil au milieu. Ses larges manches, garnies d'émeraudes et de plumes d'oiseaux, laissent voir à nu son petit bras rond, ornée au poignet d'un bracelet d'ébène. Et ses mains, chargées de bagues, se terminent par des ongles si pointus que le bout de ses doigts ressemble presque à des aiguilles. Une chaîne d'or plate, lui passant sous le menton, monte le long de ses joues, s'enroule en spirale autour de sa coiffure poudrée de poudre bleue, puis, redescendant, lui effleure les épaules et vient s'attacher sur sa poitrine à un scorpion de diamant qui allonge la langue entre ses seins. Deux grosses perles blondes tirent ses oreilles. Le bord de ses paupières est peint en noir. Elle a sur la pommette gauche une tache brune naturelle. Et elle respire en ouvrant la bouche comme si son corset la gênait. Elle secoue tout en marchant un parasol vert à manches d'ivoire entouré de sonnettes vermeilles. Et 12 négrillons crépus portent la longue queue de sa robe dont un singe tient l'extrémité qu'il soulève de temps à autre. Elle dit « Ah, belle ermite, mon cœur défaille. À force de piétiner d'impatience, il m'est venu des calus au talon et j'ai cassé un de mes ongles. J'envoyais des bergers qui restaient sur les montagnes la main étendue devant les yeux et des chasseurs qui criaient ton nom dans les bois. » Et des espions qui parcouraient toutes les routes en disant à chaque passant « L'avez-vous vu ?» La nuit, je pleurais, le visage tourné vers la muraille. Mes larmes à la longue ont fait deux petits trous dans la mosaïque comme des flaques d'eau de mer dans les rochers. Car je t'aime, oh oui, beaucoup. Elle lui prend la barbe. « Ris donc, belle ermite, ris donc. Je suis très gaie, tu verras. Je pince de la lyre, je danse comme une abeille et je sais une foule d'histoires à raconter, toutes plus divertissantes les unes que les autres. Tu n'imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des courriers verts qui sont morts de fatigue. » Les onagres sont étendus par terre sans mouvement. Depuis 3 grandes lunes, ils ont couru d'un train égal, avec un caillou dans les dents pour couper le vent, la queue toujours droite, le jarret toujours plié et galopant toujours. On n'en retrouvera pas de pareil. Il me venait de mon grand-père maternel, l'empereur Saharil, fils d'Yarabe, fils de Castan. Ah, s'il vivait encore, nous les attellerions à une litière pour nous en retourner vite à la maison. Mais comment ? À quoi songes-tu ? Elle l'examine. Ah ! Quand tu seras mon mari, je t'habillerai, je te parfumerai, je t'épilerai. Antoine reste immobile, plus roide qu'un pieu, pâle comme un mort. Tu as l'air triste. Est-ce de quitter ta cabane ? Moi, j'ai tout quitté pour toi. Jusqu'au roi Salomon, qui a cependant beaucoup de sagesse, 20 000 chariots de guerre et une belle barbe. Je t'ai apporté mes cadeaux de noces. Choisis.
L'érotisme est constant, c'est-à-dire, comme faisait remarquer le procureur à propos de Madame Bovary, l'écriture de Flaubert est une écriture érotique. Vous savez que c'est une des choses qui était retenue au procès contre Flaubert, c'est que c'était pas seulement les scènes d'amour qui étaient lascives, mais c'était l'ensemble du roman. Il y a une lascivité, c'est le mot qu'emploie le procureur. Il y a effectivement chez Flaubert un érotisme du texte qui est constant.
Oui, alors justement, à propos de Madame Bovary, l'autre fois, vous nous citiez comme exemple d'érotisme à la fois le cigare et le cheval. Vous nous avez surtout parlé du cigare, mais le cheval est aussi un thème qui est un véritable leitmotiv.
Le cheval, d'ailleurs, c'est très, très amusant de voir à quel point il est constamment lié dans Madame Bovary aux imaginations, qui sont des imaginations sexuelles, mais qui en même temps sont des imaginations romantiques. C'est-à-dire, le cheval, c'est ce qui emporte l'imagination. Dans toute l'imagerie romantique, le cheval, c'est vraiment le désir, le transport furieux. Le cheval, c'est un animal indompté, c'est un animal presque... c'est Henri Miller qui a dit, je crois, le cheval est lié à toutes les grandes périodes de l'art. Le cheval est la plus noble conquête de l'homme, dit Monsieur Fenouillard, ce qui est un peu la même chose. Alors, le cheval, il apparaît dès le début, mais alors sous forme de la virilité contestable. C'est le cheval de Bovary, qui est ce bon cheval avec lequel il arrive à la ferme des Rouault, et qui est vraiment pas du tout un animal romantique, celui-là.
Non, poussif et épuisé.
Il est poussif, il est bon, c'est le gentil cheval qui jamais ne s'emballera, et qui est déjà le caractère de Charles, c'est-à-dire la moitié bourgeoise de Flaubert.
Bon. Mais qui serait l'image d'une virilité molle.
La dureté du sexe de Charles n'est jamais mise en cause par Madame Bovary. On n'a pas l'impression qu'elle ait épousé un impuissant. C'est simplement l'imagination qui manque à son membre viril. Le cheval qui transporte Charles est un bon cheval, solide, fort, etc. C'est un bon cheval. C'est un cheval sans imagination.
C'est un cheval utilitaire.
Utilitaire.
Il utilise le cheval pour se déplacer, pour aller voir ses malades.
Exactement.
Alors que quand Rodolphe est à cheval, c'est une image de virilité.
Exactement. Bon, alors, après, alors, tout à fait à l'opposition avec ce cheval de Charles, c'est donc ces cavaliers, après la Vaubyessard, ces cavaliers fringants sur des chevaux fougueux et le cigare à la bouche, presque à la bouche du cheval. Car les réflexes du cheval sont, je crois qu'ils apparaissent avec une certaine précision dans la scène des comices. Alors là, vous allez peut-être dire que je tire un peu les choses, mais néanmoins, les chevaux jouent un espèce de rôle dans les comices.
Ce sont surtout les taureaux.
Oui, il y a les taureaux. Mais des charretiers, les bras nus, retenaient par le licou des étalons cabrés. qui hennissait à plein naseau du côté des juments. Hein, hennissait à plein naseau, bon, c'est le célèbre réflexe olfacto-labial de l'étalon en rut. Vous savez que c'est un signe réflexe chez l'étalon. Quand l'étalon passe à côté d'une jument en chaleur, immédiatement, sa lèvre se remonte un petit peu et ses naseaux s'élargissent. Ça s'appelle le réflexe olfacto-labial. Bon, alors donc, les chevaux sont notés de cette façon.
il est hennissé à plein naseau du côté des juments. Elle restait paisible, allongeant la tête à la crinière pendante. Bon, alors voilà, le cheval fougueux. Et après, alors, le grand taureau, etc. Mais je donne plus d'importance au cheval. Je vais vous dire pourquoi. Parce que deux pages plus loin, ou trois pages plus loin, quand Madame Bovary finit par être sensible au charme de Rodolphe qui lui fait une cour assidue, il est dit d'elle, elle ouvrit les narines à plusieurs reprises fortement pour aspirer la fraîcheur des lierres autour des chapiteaux. Elle ouvrit les narines à plusieurs reprises fortement. C'est le réflexe olfactolabial. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la virilité a été transférée sur elle-même et elle a ce signe du désir, tout simplement. C'est le désir, quoi.
Il y a un aspect peut-être qu'on peut retrouver déjà, même à partir de Madame Bovary, c'est la façon dont chez Flaubert l'érotisme est lié aussi à une certaine forme de mysticisme. On le trouve chez Madame Bovary, qui à la fois a ce désir exacerbé de sensualité, et dans les moments justement où ce désir est le plus exacerbé, elle éprouve le besoin d'avoir des épanchements religieux. Oui. Elle va se confesser. Oui. Et il y a également la scène du fiacre, qui est la scène d'amour entre Léon et Emma, est précédée d'une rencontre à la cathédrale de Rouen. Oui, et oui, c'est absolument dans la cathédrale que vient à l'idée de Léon de prendre un fiacre pour pouvoir justement avoir ce rapport amoureux avec Emma. Oui. D'autre part, il y a aussi un lien entre érotisme et mysticisme, d'une certaine façon, dans Salammbô. Lorsque l'enjeu de l'amour entre Salammbô et Mato est le manteau de la déesse Tanit qui a été dérobé. Et enfin, bien entendu, ce lien entre érotisme et mysticisme, on l'a alors d'un bout à l'autre de la tentation de Saint-Antoine.
Moi, je crois qu'on l'a déjà d'un bout à l'autre de Madame Bovary. C'est une des choses qui est retenue par le procureur contre Flaubert, que Madame Bovary, petite fille, ressent des émois coupables quand elle entend parler de l'époux céleste. Il y a un passage très curieux de Madame Bovary où elle est au couvent et où la perversité de Flaubert, dit le procureur, est là bien visible, car une enfant de cet âge n'aurait sûrement eu pas des idées pareilles, tu parles. Ces premiers émois vont être très importants pour Madame Bovary parce que il court après tout du long du livre. Et alors la scène que vous citez dans la cathédrale est extrêmement bonne parce que elle entre donc dans la cathédrale pour rencontrer Léon. Léon espère que c'est pour se laisser séduire. Elle croit que c'est pour lui remettre la lettre où elle lui explique qu'elle ne veut pas céder. Alors elle entre dans la cathédrale et elle lui tend la lettre. Et puis tout d'un coup, une idée lui vient, on ne sait pas très bien quoi. Elle retire sa main sans donner la lettre en question. Et elle dit que plutôt elle va visiter la cathédrale. Et alors, elle a envie de se confesser même à ce moment-là. Tout ça, c'est des substituts de l'acte sexuel qui exaspèrent Léon, qui n'a pas envie de substitut, lui, et qui en veut beaucoup aux Suisses, qui voudrait faire visiter la flèche, bien entendu.
Et là, il y a une sorte de double trame, exactement comme dans la scène des comices,
exactement,
entre les deux langages.
Exactement, oui. Et c'est très bon. Et donc, Madame Bovary, à ce moment-là, étant venue avec le prétexte de rompre avec Léon, avec qui ne s'est encore rien passé, en réalité, pensant probablement que malgré tout, on va voir, tout d'un coup, pense, ah oui, mais la cathédrale, bon sang, mais c'est bien sûr, un transfert très commode qu'elle va pouvoir opérer et remplacer Léon par une scène de confession. Ces scènes de confession qui l'émouvaient tellement, justement, quand elle était petite fille. C'est que, justement, la religion est constamment liée à la volupté.
Alors, défi, esprit de sacrilège chez Flaubert,
non,
ou bien
une
association qui existait quelque part?
Non, une association, parce que si c'était seulement un défi, ce serait lié seulement à la religion chrétienne. Or, comme vous faites remarquer, c'est lié à n'importe quelle religion, en particulier au culte de Tanit. N'importe quel symbolisme religieux va devenir pour Flaubert un symbolisme sexuel. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il est très probable que tout notre Ancien Testament est une histoire sexuelle.
Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille d'Hamilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse, au haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Derrière elle, de chaque côté, se tenaient deux longues théories d'hommes pâles, vêtus de robes blanches à franges rouges qui tombaient droit sur leurs pieds. Ils n'avaient pas de barbe, pas de cheveux, pas de sourcils. Dans leurs mains étincelantes d'anneaux, ils portaient d'énormes lyres et chantaient tous d'une voix aiguë un hymne à la divinité de Carthage. C'étaient les prêtres eunuques du temple de Tanit que Salammbô appelait souvent dans sa maison. Enfin, elle descendit l'escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s'avança dans l'avenue des cyprès et elle marchait lentement entre les tables des capitaines qui se reculaient un peu en la regardant passer. Elle marchait en inclinant la tête et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène. Il l'entendait murmurer « Mort, tous morts, vous ne viendrez plus obéissant à ma voix quand, assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèque. Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux, plus limpide que les globules des fleuves. » Et elle les appelait par leurs noms, qui étaient les noms des mois. « Siv, Sivan, Tammuz, Elul, Tishri, Shebar. Ah, pitié pour moi, déesse. » Les soldats, sans comprendre ce qu'elle disait, se tassaient autour d'elle. Ils s'ébahissaient de sa parure. Mais elle promena sur eux tous un long regard épouvanté, puis, s'enfonçant la tête dans les épaules en écartant les bras, elle répéta plusieurs fois « Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Vous aviez cependant pour vous réjouir du pain, des viandes, de l'huile, tout le malobâtre des greniers. J'avais fait venir des bœufs, des catompiles. J'avais envoyé des chasseurs dans le désert. » Sa voix s'enflait, ses joues s'empourpraient. Elle ajouta « Où êtes-vous donc ici ? Est-ce une ville conquise ? Ou dans les palais d'un maître ? Et quel maître ? Le suffète Hamilcar, mon père, serviteur des Baals. Vos armes, rouges du sang de ses esclaves, c'est lui qui les a refusées à Lutatius. En connaissez-vous un dans vos patries qui sache mieux conduire les batailles ? Regardez donc. Les marches de notre palais sont encombrées par nos victoires. Continuez, brûlez-le ! J'emporterai avec moi le génie de ma maison, mon serpent noir qui dort là-haut sur des feuilles de lotus. Je sifflerai, il me suivra. Et si je monte en galère, il courra dans le sillage de mon navire, sur l'écume des flots. » Ses narines minces palpitaient. Elle écrasait ses ongles contre les pierreries de sa poitrine. Ses yeux s'alanguirent. Elle reprit « Ah, pauvre Carthage, lamentable ville, tu n'as plus pour te défendre les hommes forts d'autrefois qui allaient au-delà des océans bâtir des temples sur les rivages. Tous les pays travaillaient autour de toi et les plaines de la mer, labourées par tes rames, balançaient tes moissons. »
Si le texte de Salammbô est peut-être moins passionnant du point de vue des implications associatives et des interpénétrations textuelles, c'est probablement parce qu'il n'y a pas justement tous ces systèmes qui mettent l'imaginaire dans l'imaginaire. Là, il est donné comme argent comptant. Si on prononce le mot de Cécile B2000, c'est parce qu'il y a effectivement cette espèce de naïveté du bon argent. Que Flaubert défendait, il en était victime. Quand Sainte-Beuve lui dit qu'Hamilcar n'était pas comme ça, il dit « Comment il n'était pas comme ça ? Mais j'ai lu des textes, je sais très bien qu'il est comme ça. » Il prouve en lisant que tout ça s'est vraiment passé comme ça. Il n'a jamais pris ouvertement le parti de dire « J'invente un monde imaginaire. » Tandis que dans Madame Bovary, au contraire, le côté imaginaire des passions
y est beaucoup plus désigné.
Et dans la tentation de Saint-Antoine, alors on a tout à fait une nouvelle apocalypse.
Oui, mais également comme argent comptant.
Vous avez commencé par mettre en relief la modernité de Flaubert. Mais est-ce que par rapport, justement, au roman moderne, Flaubert, ce n'est pas le triomphe de l'imagination?
Mais pourquoi vous dites par rapport, comme si c'était une opposition? Non, moi je crois, écoutez, on a vu chez Flaubert qu'un réaliste, et on a eu tort, je crois que dans le roman moderne, on commet la même erreur. Et c'est une chose qui m'a frappé, même chez des lecteurs aussi fins que Roland Barthes, d'avoir insisté beaucoup plus dans ma propre œuvre sur les détails censément objectifs, plutôt que d'insister sur la folie constante de ces personnages, de leur vision, de leur fantasme, qui alors, dans les derniers livres, s'est beaucoup plus épanoui. Pour moi, justement, l'œuvre de Flaubert est moderne aussi en cela qu'elle est le lieu d'une contradiction fondamentale entre ces deux tentations, celle de Saint-Antoine, le fantastique, et celle du plus plat réalisme, qui est ce qu'on y a vu d'abord. C'est une des caractéristiques de la modernité, de mettre en scène, de mettre en jeu des pôles incompatibles. Eh bien, je crois que toute l'œuvre de Flaubert est justement le lieu d'une lutte à mort entre ces deux Flaubert, qui sont le Flaubert réaliste et le Flaubert fantastique. Il a parlé de sa haine du réalisme, mais d'un certain côté, c'est aussi normal qu'on l'ait considéré comme écrivain réaliste. Je pense que si on l'avait considéré comme écrivain fantastique, il en aurait eu haine également, car il ne peut être jamais ni l'un ni l'autre. Il va être lui-même et son œuvre ce lieu où le combat a lieu entre une imagination fantastique inassouvissable et un réalisme de la quotidienneté dans laquelle il se trouve plongé.
Est-ce que Flaubert a été l'un des derniers grands mystiques de la littérature, et est-ce qu'aujourd'hui on irait comme lui jusqu'à faire de l'art une religion?
Je crois toujours, oui. Je crois, quand je vois des gens comme Samuel Beckett, ou même quand je pense à cette importance démesurée que j'attache à mes propres petits travaux, j'ai l'impression que, de ce point de vue-là, en tout cas, rien n'a changé. C'est-à-dire que l'œuvre littéraire, comme l'œuvre en général, c'est la création du monde.
Un homme, une ville, Gustave Flaubert en Orient, avec Alain Robbe-Grillet, par Jean Montalbetti. Cette troisième et dernière émission avait pour thème fantasmes orientaux, exotisme et érotisme. Les extraits d'Hérodias, de La Tentation de Saint-Antoine, de Salambo, ont été dits par Catherine Sellers et François Martouret. Prise de son Yves Bardet et Daniel Labigne. Mixage Myron Merson et Robert Altaber. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 mai 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.